Bonjour Lydie Solomon.
Bonjour Anne-Rose.
J'ai cherché longtemps par où commencer pour vous présenter, tant votre parcours est époustouflant. Vous êtes une artiste, une pianiste, une actrice, une chanteuse, une compositrice. Vous avez commencé le piano à l'âge de 2 ans et donné votre premier récital à l'âge de 10 ans. Alors ça pourrait suffire pour nous épater, mais votre vie est une quête de toujours plus de travail, peut-être, plus de talent, plus de beau, plus de sens. Une quête où Dieu a su se manifester, une quête où vous avez su entendre la voix de Dieu. On va essayer de balayer un petit peu tout ce parcours-là avec vous aujourd'hui, Lydie. Ma
Avec
première
plaisir.
question, c'est de savoir ce qui se passait dans la tête de cette petite fille de 2 ans que vous étiez quand on vous a mis devant un piano à l'âge de 2 ans. D'abord, c'est pas donné à tous les enfants. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Les souvenirs sont peut-être un peu flous, mais est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette petite enfance où tout d'un coup vous découvrez ce don, ce talent, ce don?
Je n'ai pas le souvenir précis d'avoir posé mes mains sur le clavier à 2 ans. En revanche, le plus ancien souvenir que j'ai dans ma vie, effectivement, est associé au piano. C'est-à-dire que j'ai mené toute ma vie avec mon plus ancien souvenir qui remonte à plus antérieur encore que le fait d'apprendre à marcher, à parler, à même à savoir tenir ses couverts. Donc, ma vie est intimement liée au piano. Mais j'ai des souvenirs de petite enfance quand j'avais 5 ans, quand je suis rentrée donc sur dérogation du directeur de l'école normale de musique Alfred Cortot à Paris, où mes pères avaient souvent 10 ans de plus que moi. Je suis rentrée dans cette école, cette grande institution à Paris, boulevard Malesherbes, et j'ai des souvenirs de. Alors j'appelais ça des extases avant de connaître le jargon, le jargon de la foi qui m'a saisie plus tard. Mais c'était vraiment des moments de grande jubilation dans ce cerveau et ce cœur de petite fille qui découvrait la musique et qui découvrait le solfège, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, n'en déplaise à mes pères, parce que c'est vrai que c'est une discipline qui peut paraître un petit peu rébarbative. Non, moi je l'ai trouvée vraiment lumineuse et donc la musique m'a parlé toute petite. Mais pas que. C'est-à-dire que ce n'a pas été que la musique qui m'a parlé.
Mais néanmoins, la musique a joué du coup un rôle important dans votre éducation. Quand on a 2, 5, 10 ans,
Bien sûr.
eh bien, les parents sont là pour nous aider à grandir. La
Bien
musique
sûr.
vous a aidé à grandir, vous a
Bien sûr.
éduqué.
Vous savez, j'ai une anecdote d'un mon professeur du conservatoire à la Villette, donc le CNSMDP. Un jour, il me met une partition de Beethoven. Il me dit, déchiffre-la. Et je l'avais jamais, ni peut-être entendue de loin, mais je l'avais jamais jouée. Et je commence à la déchiffrer. Donc là, j'avais plutôt 16 ans. Et c'est comme une évidence de cette musique qui se déroule sous mes doigts. Et il me dit, toi, t'as écouté Beethoven dans le ventre dans le ventre de ta maman. Et je rentre chez moi et j'étais très contente et j'ai dit à ma mère, tiens, mon professeur m'a dit que j'avais écouté Beethoven dans ton ventre. Elle me regarde, elle me dit, mais c'est vrai. Quasiment toute ma grossesse, j'ai écouté du Beethoven. Donc, je n'ai pas de souvenir d'avoir été dans le ventre de ma maman, mais c'est vrai que mes plus anciens souvenirs sont vraiment liés à Beethoven. C'est vrai que Beethoven, je me sens très intimement liée à Beethoven, mais pas que, hein. J'aime Chopin, j'aime Rachmaninov, j'aime beaucoup Schumann, mais c'est vrai que Beethoven, j'entretiens un rapport vraiment presque surnaturel, on va dire, avec sa personnalité et sa musique.
Quel était le regard des adultes qui vous entouraient? Alors, on imagine évidemment que ce sont vos parents qui ont dû percevoir quelque chose de particulier en vous pour vous permettre très très jeune de pouvoir jouer du piano. Mais ensuite, on comprend, vous avez été entouré d'adultes très très tôt, très jeune, plus jeune que la normale. Est-ce que ce regard des adultes n'était pas trop lourd à porter pour la petite fille que vous étiez ou pour la jeune adolescente que vous étiez?
Si, et d'ailleurs, c'est vrai que le fait d'avoir rencontré la foi beaucoup plus tard dans ma vie, je me suis souvent dit, tiens, si j'avais eu cette foi construite,
Ah
hein,
oui.
pas intuitive, mais construite plus tôt, peut-être que j'aurais eu des armes pour faire face à ce vrai défi, car c'est un défi quand on est haut comme 3 pommes et que les doigts vont très vite et que ça semble facile et naturel et que les adultes vous regardent avec un regard presque avide vous savez, de ces adultes qui projettent leur fantasme de l'enfant prodige, la plus jeune, la plus douée. Quand j'étais petite, je n'avais absolument aucune notion de cela, à tel point que le premier concert que j'ai donné à 10 ans, vous l'avez mentionné, eh bien, je l'ai donné en toute innocence, en fait, sans réfléchir. Et saisie d'une forme de pudeur, je suis sortie de scène et je suis allée dans le parc du château, c'est dans un château en Belgique, et je suis allée grimper en haut d'un arbre. Parce que pour moi, ce qui était plus important, c'était la vie, la spontanéité. J'étais très
Ouais.
sportive aussi. Et ma meilleure amie m'a couru après en me disant, ils veulent des autographes. Alors, j'avais une sorte de petite cour derrière d'adultes qui venaient avec leur programme au pied de l'arbre, me demandant un autographe. Alors, je suis descendue de l'arbre, j'ai inventé une signature, car je n'avais même pas
À 10 ans, oui,
réfléchi
vous
à
n'aviez pas de signature,
j'avais
oui.
pas réfléchi à mon autographe. Et je suis remontée en haut de mon arbre, tel Diogène, qu'il fallait pas déranger dans ces activités connectées à la nature. Mais
Vous en
par
avez
contre,
souffert de ça? De cette pression où vous vous disiez, bah oui, c'est normal, j'ai un don, j'ai un talent qui est pas commun, donc c'est ma vie. Comment vous réagissiez face à cela?
sur le coup, je me disais pas j'en souffre, mais je sentais des décalages, des
Ouais,
décalages
ouais.
de vérité, puisque moi je jouais vraiment non pas pour la communication, pour plaire, pourquoi, je jouais parce que je me sentais appelée à jouer. Mais après, assez vite, j'ai compris quand même le système, hein, de la compétition, du dépassement de soi. Ça m'a pas forcément fait souffrir dans le sens où, peut-être c'est ma culture coréenne aussi, hein, ma mère était très dans cette culture compétitive, élitiste,
Oui, votre
et ça
maman
fait
est
partie de
coréenne,
ma
votre
maman est
papa est
coréenne.
franco-roumain.
Exactement.
Voilà, donc il y a aussi ce mélange des cultures hein, qui est
Voilà,
important dans votre
exactement,
parcours.
exactement. Et d'ailleurs, c'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est dans la Corée de l'après-guerre, où ma mère a grandi dans cette Corée qui était vraiment du tiers-monde, hein, eh bien, on regardait beaucoup l'Occident, et on regardait beaucoup le patrimoine occidental,
Ouais.
et la musique classique faisait partie des Eldorado de la Corée. Donc je pense que pour elle, c'était aussi un objectif. Ça n'a pas été un objectif pour moi, ça n'a jamais été un rêve de devenir pianiste, puisque je suis née pianiste. En revanche, pour ma mère, je pense que c'était important d'aller vraiment dans ce dépassement de soi, dans cet élitisme. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée finalement un peu galvanisée aussi par cette énergie. Et donc, il faut reconnaître qu'au bout d'un moment, bien, il y a un nettoyage à faire, un nettoyage
Ouais.
intérieur de est-ce que je fais du piano parce que je plais, j'épate et je gagne tous les prix, ou parce que j'aime la musique et je suis à ma place.
Oui. Alors, quand même, tout à l'heure, vous disiez que à ce moment-là, vous n'aviez pas la foi. Néanmoins, quand même, dans vos témoignages que vous donnez ici et là, vous parlez de lettres à Dieu que vous écriviez
Oui.
très jeune, hein,
Ouais.
vraiment enfant. Tout ce que vous
Oui.
nous dites là, vous le confiez à Dieu à ce
Oui,
moment-là?
oui, oui, oui. Alors j'ai dit tout à l'heure que je n'avais pas la foi construite que j'ai rencontrée après par les évangiles, mais j'avais une foi intuitive, une foi qui était brûlante quand même, et que je ne savais pas comment exprimer. Et quand j'ai découvert le miracle de l'écriture, eh bien mes premiers écrits, je les destinais à Dieu. Donc j'écrivais en effet des lettres à Dieu quand j'avais 7 ans. J'ai commencé à lui écrire des lettres, mais c'était une foi totalement intuitive. Je ne savais pas qui était Jésus. Je lui
Vous n'aviez
écrivais
pas reçu
d'éducation
de
catholique. Non, pas du
catéchisme,
tout.
quoi.
Je voyais mes copines qui allaient au catéchisme ou à la synagogue après l'école, mais je ne savais pas du tout. Alors une fois, je me suis retrouvée à la messe, obligée par une amie chez qui je dormais, justement encore en Belgique, c'est encore cette amie. Et elle m'a appris le Notre Père la nuit, je l'ai récité toute la nuit, je trouvais que c'était très beau, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire.
Il y avait quand
Je
même
suis
une
allée à la
soif,
messe.
hein.
Alors, il y avait une soif, de toute façon,
Ouais.
j'avais le sentiment de Dieu, le pressentiment de Dieu quand j'étais petite, mais c'était absolument pas construit. Donc, quand même, ma relation à Dieu était très, très proche, mais très secrète aussi, et donc très friable. Parce que au moindre, enfin, je veux pas dire que au moindre, j'ai une enfance comme il y a plein d'enfances et la mienne n'était pas des plus faciles, on va dire. Et
Pas des plus faciles à cause de l'exigence du
en partie,
conservatoire et...
exactement. Oui, bah, le fait d'être une enfant qui est à la place d'une adulte, finalement.
Ouais.
Ça, c'est quand même un défi de taille auquel on n'est pas préparé, hein, pas des écoles d'enfants prodiges. On vous met juste là et il se trouve que ça me correspondait. Donc c'est peut-être encore pire. Comme disait un ami qui m'est cher, il n'y a rien de pire que quand quelqu'un choisit pour vous ce que vous auriez choisi à vous-même. C'est difficile. Après, il faut faire la part entre tous ces nœuds. Mais finalement, le Seigneur m'a permis de le faire plus tard. Et donc oui, quand je suis petite, bah, je ne sais pas pourquoi je suis là, mais par contre, je sais que quand je suis au piano, là, c'est la vérité qui se dégage. Donc, à 13 ans, eh bien, effectivement, comme ma relation à Dieu était totalement intuitive et secrète, j'ai eu des épreuves, comme beaucoup d'enfants. Puis, je regardais la fin dans le monde, les guerres. J'ai dit non, Dieu ne peut pas exister puisque c'est un Dieu d'amour. Et donc, dans ma logique de petite fille, j'ai écrit une lettre d'adieu à Dieu.
Dans votre logique de petite fille adolescente, du
Oui,
coup. Parce que voilà,
exactement, oui,
c'était...
qui devenait adolescente et qui ne comprenait pas
Ouais.
cette logique d'un Dieu qui aime et qui laisse ses créatures mourir de faim, de
Donc,
souffrance,
une
de
lettre
solitude.
d'adieu à Dieu et
Ouais.
après,
Et après, plus
il
rien.
terminait pour vous.
Terminé. Terminé. Totalement terminé. Et même un rejet nourri par l'anticléricalisme de mes parents, qui eux étaient de confession juive plutôt par mon père et de confession bouddhiste par ma mère, mais c'était plutôt culturel. C'était plutôt folklorique. On allait à des fêtes de famille, c'était rigolo, mais ça n'allait pas plus loin. Il n'y avait pas de spiritualité vraiment nourrie.
On marque une pause, Lydie Solomon, et puis on vous retrouve dans un instant pour poursuivre cet entretien et découvrir la suite de votre parcours. À tout
Avec
de
plaisir.
suite. Nous sommes toujours en compagnie de l'artiste Lydie Solomon. Alors, Lydie, juste avant la pause, vous nous expliquiez comment il y a eu cette rupture finalement avec Dieu, puisque petite, vous lui écriviez des lettres et tout d'un coup, à 13 ans, vous lui dites adieu. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Vous avez poursuivi votre formation de musicienne, hein, puisque d'artiste, de pianiste, puisque vous êtes sortie du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris avec le premier prix. Mention très bien. Vous avez suivi des cours, les cours Florent, donc une soif de plein de choses. Et puis vous avez suivi aussi des études prestigieuses, on peut dire. Finalement, on a l'impression, quand on regarde votre parcours, que vous avez cherché un petit peu toutes les voies, mais tout le temps le prestige.
Bon, c'était pas le prestige pour le prestige, c'était parce que j'avais une soif d'apprendre et d'élargir mon champ d'expression et d'être dans le monde qui est quand même très vaste. Et c'est vrai qu'au conservatoire, eh bien, vous savez, quand on est expert d'une matière, eh bien, on carotte, on creuse son sillon, mais on regarde pas forcément ce qu'il y a autour. Et c'était vraiment le cas en musique classique. On a tellement besoin d'une maîtrise technique, tellement vraiment, c'est une maîtrise folle, enfin, de son art, qu'on n'a pas le temps d'aller voir comment tourne le monde, en fait.
Ah
Et
oui.
moi, ça me manquait de voir comment tournait le monde. Et puis, vous savez, oui, je suis un oiseau libre. Je suis un oiseau libre dans le sens où j'ai besoin d'aller voir d'autres horizons, d'autres contrées, d'autres cultures. Ce que ne me permettait pas le conservatoire, mais qui m'a permis un petit peu parce que j'ai pris des cours de théâtre au conservatoire. C'était des options, hein, avec Georges Verlaire, qui était le metteur en scène de Michel Bouquet. Et j'ai eu des cours de prestige là aussi, mais enfin de prestige dans le sens vraiment de la vérité. C'était vraiment des cours en vérité, au plus haut niveau de cet art que je découvrais et que j'aimais beaucoup. Mais j'aimais aussi écrire. J'ai fait un stage chez Flammarion aux côtés de Frédéric Becbédé, où j'étais son assistante en tant que lorsqu'il était directeur littéraire. Donc j'ai eu besoin vraiment de plusieurs expériences pour enrichir les cordes à mon arc et que finalement mon art ne soit pas juste un art d'interprète, ce qui est déjà immense et qui est déjà mon fil rouge dans ma vie, mais vraiment une façon de chanter, de dire et de me présenter et de m'exprimer et de pouvoir surtout me connecter aux uns et aux autres.
Alors, est-ce que c'était un défi de découvrir tous ces chants-là sans vous éloigner finalement du piano qui est votre cœur?
Alors c'est un défi dans la pratique,
Ouais.
mais pas dans l'esprit. C'est-à-dire que dans l'esprit, il n'a jamais été question que j'arrête le piano. Et même les fois où, vous savez, moi j'ai une relation un peu de couple avec mon piano, hein, je t'aime, je te déteste, je te quitte, moi non plus. Eh
Les
bien,
artistes sont quand même des personnes particulières.
oui, parce que c'est un rapport tellement fusionnel et tellement
Ouais.
intime que voilà, on va vraiment dans les abysses de l'âme pour explorer des choses qui sont tellement indicibles. Et puis, vous savez, Baudelaire, la correspondance des sens, la synesthésie, c'était quelque chose qui est très présent en moi aussi. Et donc, le piano, non pas qu'il était insuffisant, mais j'avais besoin de lui donner des alliés, quoi, des
Oui.
amis. Et
Et vous les
donc,
avez trouvés
oui, je
au
les ai
cours
trouvés.
Florent,
Mais il
dans
n'a
vos
jamais été question que
études?
j'arrête le piano. En tout cas, même s'il y a des périodes où j'ai fait moins de concerts, le piano était toujours mon fil rouge. Par contre, oui, c'est un défi de garder ça au plus haut niveau. Et j'ai tenu à le faire quand même. Donc, tous les jours de ma vie, ben, je me mettais au piano pour vraiment garder cette excellence dans mes doigts.
Est-ce que c'était une manière aussi pour vous, eh bien, d'avoir une certaine liberté et de vous dédouaner peut-être un peu des pressions de ceux qui pouvaient vous dire, ben non, voilà, tu es pianiste et c'est là ta voix et on t'attend là, ben,
Oui,
on a
oui,
besoin de
oui.
toi dans cette voie-là.
Tout à fait, tout à fait. Alors, oui. Me dédouaner, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas de sens pour moi de rester expert d'un domaine sans aller voir, comprendre les autres
Les
cultures.
autres, oui.
Voilà, donc ça, pour moi, c'est très très important de comprendre comment un compositeur compose. Comment Chopin a composé? Comment je peux jouer une œuvre de Chopin si moi-même je ne sais pas ce que c'est que cet exercice de composition? Chopin était un excellent comédien aussi, un comique. Il imitait les gens. Léonard de Vinci, on sait que, on connaît Michel-Ange, Léonard de Vinci, ce sont des grands artistes qui se sont fait connaître pour des œuvres très variées. Et ils avaient cet humanisme et cette ouverture à 360. Et c'est parce qu'on compose qu'on peut comprendre, tiens, cette sonate de Chopin, je l'entends différemment parce que j'ai composé moi-même quelque chose. Schumann était un poète, il mettait en musique des poèmes, ses poèmes qu'il écrivait aussi. Et donc, bah, il faut écrire un poème pour comprendre ce que c'est que la musique d'un poème aussi. Donc pour moi, c'était très important ça, pour
Ça a
devenir une
changé
artiste complète.
votre manière de jouer? Est-ce que votre rapport au piano a changé après? Alors j'ai l'impression quand vous nous racontez tout ça que finalement vous étiez peut-être un peu sous cloche et tout d'un coup eh bien vous avez découvert un tas d'autres univers.
Oui,
Qu'est-ce
un
que
petit
ça a
peu.
changé dans votre rapport au piano?
En fait, je l'ai toujours entretenu depuis toute petite. J'enregistrais des cassettes pour mes doudous. J'inventais des histoires. J'écrivais des romans. J'ai écrit 5 romans qui sont encore dans mon tiroir. Avis aux éditeurs. Mais je jouais la comédie aussi. J'ai pris des cours de théâtre. Donc, c'était déjà en moi. Après, par contre, ce qui a changé, effectivement, c'est cette possibilité de dire au fond. Et c'est un jour quand j'ai rencontré un comédien que vous connaissez sans doute, qui est Pascal Légitimus, qui a presque autorisé ce que je pensais en me disant, bah, écoute, toi, tu devrais exprimer plusieurs arts dans un spectacle. Eh bien, tu pourrais jouer la comédie, chanter, danser, jouer du piano. Je l'avais déjà fait un petit peu, mais à titre un peu timide. Et effectivement, on a commencé à écrire, et donc on est toujours en train d'écrire d'ailleurs, ce qui sera un one-woman show ou un stand-up musical. Donc je suis au piano, mais je chante, je m'adresse et je scénarise mon concert.
Et ça sortira quand pour...
Exact. Eh bien, il y aura une ébauche de cela déjà le 19 octobre, en la chapelle des pénitents à Montléon-Magnouac, puisque je fais un concert, mais je l'ai déjà fait à Paris aussi. Mais à chaque fois, c'est un petit peu plus peaufiné, où c'est l'histoire d'une pianiste qui commence un concert, qui fait une fausse note et qui met fin à sa carrière. Et qui explique, finalement, qui raconte toute sa vie, comment l'exigence de l'excellence a pu avoir un impact sur son être et sur sa façon de jouer, et comment elle veut se libérer de cette prison et comment, finalement, elle va s'en libérer.
Alors moi, j'aimerais bien savoir comment vous vous êtes libéré de toutes ces questions qui peut-être vous tourmentaient à une période. En tous les cas, c'est ce que vous dites dans un de vos témoignages, que vous étiez quand même en recherche. Et puis on sent parfois un peu de colère. Enfin, vous cherchiez ce qui allait vous épanouir. Tout d'un coup, vous reconnectez à Dieu. Qu'est-ce qui se passe pour que, eh bien, dans votre vie très épanouie d'artiste qui connaît plein de domaines, qui sait tout faire, comment Dieu, tout d'un coup, est revenu?
Dieu est revenu par la comédie,
Ah.
car j'ai joué dans un film. Donc, quand je suis sortie de l'ESSEC, j'ai fait le cours Florent et je rencontre un réalisateur qui me propose de tenir mon propre rôle dans un film, un deuxième long métrage qui s'appelle Vivre, qui est sorti au cinéma en 2009 et où donc j'incarne une pianiste concertiste qui raconte ses joies, ses peines, ses doutes et ses convictions. Et ce film étant sorti, j'ai eu un agent. Cinéma, qui un jour m'appelle, plusieurs années après, qui me dit, voilà, on cherche une Bernadette Soubirous. Je ne connaissais pas du tout cette personne, donc j'ai commencé à me renseigner sur cette figure, et j'étais très très loin de Dieu à l'époque, j'étais vraiment assez moqueuse même des grenouilles de bénitier, et donc je commence à lire sa vie, et je dois reconnaître que dans sa vie, il y a quelque chose qui me saisit. Alors je me prends d'amitié avec elle, même si c'est une sainte qui est morte il y a 150 ans, mais je me sens vraiment proche d'elle. Et ce qui m'a touchée chez elle, c'est son aplomb. Sa vérité, son aplomb devant les autorités. Elle n'a pas failli un seul instant, elle n'a pas douté. Ce qu'elle a vécu, elle l'a vécu et elle avait juste
Ce rapport
à le dire.
à la vérité, ça vous parlait, puisque vous
Exactement.
disiez au début de notre entretien, quand on est devant le piano, on est vrai, quoi.
Exactement.
On lâche tout en vérité.
Exactement. Et quand j'étais au piano, je lâchais tout, mais tout ce qu'il y avait autour, faut reconnaître qu'il y a beaucoup de faux-semblants quand même. Il y a beaucoup de paillettes, de paraître, oui, il y a quand même beaucoup de mensonges. Moi, j'ai découvert les mensonges des adultes, et ça, c'est quelque chose que je ne supportais pas, parce que ce qui m'intéressait avant tout, c'était la pureté de cœur. Et cette pureté de cœur de Bernadette Soubirous, elle m'a touchée directement. Et donc, j'ai voulu m'intéresser à tous les aspects de sa vie, comment elle marchait, comment était sa voix, comment elle était habillée. Donc, je suis allée à Lourdes. comme vraiment une touriste pour la première fois. Je suis venue à Lourdes plutôt et j'ai rencontré le chapelain de Lourdes qui m'a dit, mais écoutez, vous devriez, le père Régis Marie de la Tessonnière m'a dit, vous devriez lire les évangiles puisque c'est le livre auquel elle croyait. Et je suis rentrée chez moi et j'ai lu les évangiles. J'ai essayé de trouver une Bible, j'en avais pas, donc mon époux m'a donné sa Bible de première communion qui était sous un tas de poussière. Je l'ai lue et j'ai été saisie de coup de foudre. Le coup de foudre, vraiment, l'écriture m'a attrapée tout entière.
On peut parler de conversion pour vous, vous l'avez vécu comme une...
Je l'ai pas dit comme ça sur le coup parce que encore une fois, j'avais pas du tout le jargon catholique. Ouais. Moi, tout ce qui m'a intéressée sur le moment, c'était la figure de Jésus. Et j'ai dit, cet homme est vrai et il y a que lui que je veux suivre. Enfin, ça a été une évidence, quoi. Alors que j'étais vraiment, vraiment très, très moqueuse des croyants, finalement.
Donc, un parcours à entreprendre. Qu'est-ce que vous
avez
changé?
Après, c'était le début du parcours de combattant. Ouais. Parce qu'il a fallu tout changer. Il a fallu tout revoir. Ma vie avait... Vous savez, quand je suis rentrée dans ma chambre pour lire la Bible, le couloir, voilà, avec le mur blanc, le parquet, avait une certaine apparence. Et quand je suis sortie de ma chambre, après avoir lu les évangiles, j'ai vu un autre couloir. C'était un nouveau couloir qui menait vers une nouvelle vie. Et là, j'ai dit, à partir de maintenant, ma vie va changer. Je n'avais aucune idée comment, mais je savais qu'elle allait changer.
Pourquoi vous parlez de parcours du combattant? On se dit, quand on rencontre Dieu, quand on découvre la vie de Jésus, et que tout d'un coup, ça illumine sa manière de voir, on peut se dire, après, tout va être facile. Vous parlez d'un parcours de combattant, pourquoi?
Parce que finalement, il y a beaucoup de choses dans sa vie qu'on mettait un peu sous boisseau, ou qu'on voulait pas voir, ou même des relations parfois toxiques avec des gens, ou des choix qu'on a fait dans sa vie. J'avais certains amis que je n'ai plus maintenant, de nouveaux amis, j'ai eu de nouveaux amis, ma forme artistique aussi par rapport au piano, je me suis dit finalement mon expression artistique, elle est avec le piano, mais peut-être pas sous cette forme.
Vous avez gagné une autre maturité.
Une autre maturité, une autre liberté intérieure. C'était surtout la liberté intérieure. De dire, je pense comme ça et je suis une personne digne. Et donc, je ne suis pas un bon soldat d'un système qui interprète finalement Beethoven très très bien. Et j'ai besoin de raconter une histoire. Et c'est comme ça qu'est né mon premier album Eldorado, qui est un album hispanique qui avait un début de scénarisation. Et ça m'a donné des idées artistiques aussi.
Est-ce que vous avez recommencé à écrire à Dieu?
Alors, c'est une très bonne question. Je n'ai pas écrit à Dieu, mais j'ai écrit sur Dieu. Et tous mes écrits, parce que je n'ai jamais cessé d'écrire mon journal intime, en effet. Quand j'avais 13 ans et j'ai écrit à Dieu, j'ai nommé mon journal intime avec un nom de doudou. Et là, j'ai abandonné ce nom. Et je me suis adressée vraiment à mon intérieur et en parlant que par le prisme, finalement, de ma foi.
Est-ce que c'est difficile quand on a une vie accomplie, qu'on est connu, reconnu, qu'on a l'impression que tout va bien, puis tout d'un coup Dieu arrive et bouscule tout. Est-ce que c'est difficile alors, d'abord à vivre à l'intérieur de soi, mais aussi vous parliez de votre mari, donc en famille, et au fond comment on arrive à continuer à vivre simplement. Vous dites que vous vous êtes fait de nouveaux amis, donc vous avez découvert l'Église, la communauté diocésaine, la communauté paroissiale. Est-ce que ça a été facile pour vous?
Ce qui n'a pas été facile, c'est que je vivais en concubinage avec mon mari qui était marié à l'Église, et donc j'étais interdite de baptême. Nous étions interdits de mariage alors que nous nous aimions. Et donc pendant 12 ans, ça a été un parcours du combattant à ce niveau-là aussi, puisque je vivais en situation de péché mortel. Et moi, je ne me sentais pas en péché, puisque j'avais vraiment l'impression que je découvrais la foi. Donc j'ai une sorte au début de sentiment d'injustice, parce que je vais vers Jésus et on me dit que tu peux pas avoir le baptême. Ça a été dur, mais ça a été dur peut-être quelques jours. Et après, on m'a dit, il y a la possibilité de faire reconnaître le premier mariage nul et de pouvoir accéder au sacrement, mais il faut le temps du procès. Et ce procès a duré très longtemps puisque j'ai attendu donc 13 ans. Mais le mystère de Dieu, et c'est là que le temps de Dieu n'est pas celui des hommes, puisque je n'ai jamais eu la moindre impatience ni le moindre doute. Et dans ma personnalité, c'est plutôt le contraire. Je suis plutôt impulsive, impatiente.
Faut que ça aille vite, faut que ça avance.
Mais là, pas du tout. J'avais une confiance totale, et je savais que les choses se feraient quand elles se feraient, et elles se sont faites.
Lydie Solomon, vous avez quelle vie aujourd'hui? Vous vivez dans le diocèse de Tarbes-Lourdes, c'est pas un secret, dans le Magnoac.
Tout à fait.
Donc vous êtes assez proche de Lourdes, ça doit quand même être une source de grande joie pour vous.
De grande joie, oui, en effet.
On imagine aussi que vous n'avez pas mis un terme à votre carrière, donc vous bougez beaucoup, vous donnez des concerts, des récitals, des représentations un petit peu partout. Quelle vie vous avez exactement?
Une vie d'oiseau libre. Donc ça veut dire que par contre je ne vole pas dans mes destinations de concert. Je peux prendre l'avion de Toulouse, c'est ce qui est très pratique, c'est que je peux habiter en effet, comme vous le disiez, dans le Magnoac. Donc ça me permet d'avoir une vie de nature, connectée à la nature. Et c'est vraiment, faut reconnaître que c'est vraiment là que je compose le plus.
Et c'est pas incompatible du coup avec votre carrière internationale.
Mais loin de là, même c'est même beaucoup mieux parce que moi j'élève aussi mes trois enfants. Donc je compose, je peux jouer la nuit, je peux chanter la nuit. J'ai un lieu où je peux insonoriser, où je peux faire de la musique la nuit, ce qui est impossible à Paris, mais je vais à Paris lundi prochain, donc j'ai une vie très active à Paris aussi. Si je suis à Paris, je prends l'avion de Paris, si je dois me déplacer, comme je le fais parfois, vous savez, je pars régulièrement sur les yachts de luxe Ponant pour faire des croisières, où je fais des conférences-concerts, donc ça peut m'arriver d'aller en Amérique centrale ou en Arabie, là je vais partir en Géorgie en tournée. Eh bien, je peux prendre l'avion de Toulouse. Donc, ça me laisse une liberté et finalement un espace intérieur, parce que c'est sûr que quand on voit les montagnes, les vaches, les grands pâturages,
ça vous inspire.
Ça me donne beaucoup plus d'idées musicales. Ouais. Et mais à Paris, ça me donne une sorte d'électricité qui me permet de finaliser mes compositions, ce qui est assez
finalement, vous avez gardé cette habitude d'aller piocher un petit peu partout tout ce qui peut vous inspirer.
Oui, ouais, tout à fait. Partout, en tout cas, j'ai deux pôles. J'ai vraiment le pôle des Pyrénées et le pôle de Paris qui sont mes deux pôles de vie, de résidence. Et puis après, quand je voyage, en effet, comme un oiseau libre, je me nourris de ce que je vois et ce que j'entends, et ça me donne des idées musicales, très souvent.
Sur YouTube, on peut regarder un témoignage que vous avez donné devant un groupe de jeunes. Je voudrais qu'on parle de cette question, avant de terminer cet entretien, de la question de la transmission. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre aux jeunes aujourd'hui? Puisque finalement, votre travail... Vous êtes au service du beau. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre?
Du vrai surtout.
Du vrai et
du vrai.
Beau.
Ouais. Et du beau. Le beau est une conséquence du vrai, je trouve. Mais j'aime bien insister sur le vrai parce que les jeunes aujourd'hui, justement, sont peut-être en proie à des questions qui les brouillent un petit peu avec tous les réseaux sociaux, cette incertitude, ce monde qui change à toute vitesse. Finalement, qu'est-ce que je fais là? La Terre, de toute façon, elle est fichue. Enfin, donc on est vraiment face à un monde qui est un peu inquiétant. Moi, ce que je peux dire, ce que j'ai dit à ces jeunes-là, c'est que la foi, en tout cas, mais la foi, c'est pas forcément la foi catholique, ça peut être la foi dans sa flamme intérieure, chacun avec sa religion, chacun avec ses convictions. En tout cas, la foi, ça veut dire la flamme intérieure, en fait, notre part immortelle, eh bien, elle n'efface pas les souffrances, mais elle leur donne un sens. Et ça, c'est tout à fait différent, parce que c'est pas parce qu'on a une écharde, on a mal. Mais bon, on sait que on va faire ce qu'il faut pour l'enlever. Et puis le temps qu'on souffre, eh bien, on peut l'offrir pour pouvoir ressortir grandi. Et ça, c'est vraiment la chose que j'ai apprise avec la renaissance de ma foi. Eh bien, c'est que finalement, il faut tenir bon parce que même si on ne sait pas pourquoi on fait les choses, eh bien, intérieurement, on a toutes les réponses déjà. Il faut juste s'écouter intérieurement et le chemin se trace de lui-même.
Est-ce que vous vous demandez encore, Lydie Solomon, ce que vous ferez quand vous serez grande?
Oh oui, c'est vrai. Oui, vraiment.
C'est vrai.
Déjà que je suis pas très grande, mais oui, on ne cesse de grandir et d'évoluer et de se découvrir et d'enchaîner les chapitres d'une vie comme un livre.
Donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de projets et d'idées dont on pourra voir
échanger
et voir les fruits. Vous viendrez nous raconter tout cela
avec
très prochainement. Merci beaucoup,
merci
Lydie Solomon,
Anne-Rose.
Pour ce témoignage.